Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé, bonjour, bienvenue, on s'occupe de votre forme et de vos formes d'ailleurs aujourd'hui avec mon invité Patrick Serog, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et vous publiez « Créez vous-même votre régime » aux éditions Flammarion. À chacun son régime, en partant du principe que ce n'est pas parce que ça fonctionne sur toi que ça va fonctionner sur moi.
Exactement, pour chacun c'est différent.
Chaque être humain est unique au niveau de son métabolisme, de ses comportements. Mais d'un autre côté, par exemple, si on prend une mère de famille, quand elle cuisine, elle va cuisiner de la même façon pour tout le monde. Donc elle ne va pas adapter ses repas pour chacun d'entre chaque membre de la famille.
Absolument, c'est pour ça qu'on essaie de trouver une cuisine finalement familiale qui peut convenir à tout le monde, dont les quantités ne sont pas forcément les mêmes, mais dont la structure de l'alimentation sera la même pour la famille, puisque c'est cette structure qui va assurer en fait le maintien du poids sur le long terme.
Contrairement à ce qu'on pense, on maigrit toujours plus vite qu'on ne grossit. Et là, ça va m'en faire sourire plus d'un.
Ah oui, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ça en fait sourire plus d'un, mais pourtant, c'est la vérité. Si vous regardez la prise de poids, par exemple, sur une vingtaine d'années, eh bien, vous allez prendre, admettons, 10 kilos, 12 kilos, 15 kilos même. Quand vous allez maigrir, la moyenne d'amaigrissement, c'est environ 1 kilo, 1 kilo, 2 par mois. Vous imaginez qu'en un an, vous avez perdu déjà 12 kilos ou 13 ou 14 kilos, alors que vous avez pris ce même poids en une dizaine d'années. Donc vous maigrissez 10 fois plus vite que vous ne grossissez.
Alors pourquoi les gens ont-ils l'impression de maigrir trop lentement ?
Parce que quand on fait attention à son alimentation, eh bien... Si vous voulez, il y a forcément une lassitude qui s'installe. Lorsque nous mangeons spontanément, nous ne pensons pas à ce que nous mangeons et surtout, nous oublions une partie de ce que nous mangeons. Et cet oubli qui est inconscient est fait exprès pour augmenter la variété alimentaire de telle manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans une monotonie quotidienne. Mais quand vous faites attention, vous dites « Ah tiens, ça je peux prendre ci, ça je prends ça », vous y pensez tout le temps, puisque au début, vous êtes obligé de faire attention. Après, ça devient un automatisme. Mais avant que cela devienne, eh bien c'est ça qui donne ce sentiment-là de difficulté.
Mais il est difficile de se voir maigrir. Et les gens sont toujours pressés, veulent des résultats immédiats, donc ont l'impression que ça traîne.
Oui, exactement. Les gens veulent résultats immédiats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont attendu souvent longtemps avant de décider enfin de faire quelque chose. Parce que pour eux, décider, ça veut dire la restriction. Et quand on est dans la restriction, eh ben, on voudrait que ça aille très vite pour qu'on abandonne rapidement la restriction, ce qui est tout à fait normal. Or, justement, il ne faut pas être dans la restriction, parce que plus on est dans la restriction, plus on va regrossir après cette période de restriction.
Bon, bonne nouvelle avec votre stratégie, hein, puisque vous appelez ça une stratégie, on ne se prive de rien. Personne ne perçoit la façon dont il a pris du poids, ni le temps qu'il a fallu à son organisme pour stocker les graisses. Et donc, vous, ce que vous conseillez, c'est de repasser le film à l'envers, mais c'est très difficile de finalement te rendre compte à partir de quel moment précisément on a commencé à prendre du poids.
Ben quand on s'interroge, ou quand moi j'interroge les patients, on retrouve très bien les grandes périodes de vie dans lesquelles on a pris du poids, ou bien on est resté stable un long moment, et puis on a repris du poids après. Et en fait, quand on a des grandes périodes de stabilité du poids, c'est une sorte de poids repère. C'est celui auquel on peut espérer revenir et se stabiliser parce qu'il est déjà inscrit dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, en fait, de ces poids-là. Alors que lorsque vous êtes dans une phase dynamique de prise de poids, bien sûr, vous passez des étapes et il n'y a aucun repère pour vous possible.
Donc, alors, aidez-nous à repasser le film à l'envers. Qu'est-ce qui va nous permettre, par exemple, de trouver l'élément déclencheur, on va dire?
Ce qui va permettre de découvrir l'élément déclencheur, c'est en fait déjà le rappel du poids qu'on avait. Souvent, les gens disent « Ah ben, tiens, j'étais bien quand j'étais à 75 kilos. C'était une bonne période de ma vie. » Eh bien, c'est ça qu'on essaie de retrouver, c'est quels sont les bons souvenirs, finalement, du corporel dans lequel on se sentait bien et vers lequel on va essayer de tendre.
D'accord, mais il y a des choses qui peuvent aider, c'est que quand parfois on regarde des photos d'il y a 10 ou 15 ans, où déjà on était au régime parce qu'on se trouvait trop gros et qu'on regarde les photos, on se dit, disons, qu'est-ce que j'étais mince.
Oui, exactement. Il y a une relativité par rapport au poids dans l'image que l'on a. Alors ça, ça introduit une autre notion très importante qui est celle que souvent, on ne se voit pas maigrir. On a décidé de maigrir, mais on ne se voit pas et on se trouve toujours trop gros. Et il y a une raison à cela, c'est que lorsqu'on se regarde dans la glace, eh bien l'image que l'on a est une image instantanée qui ne s'imprime pas dans le cerveau. Et il faut faire des photos. Si on fait des photos régulièrement, tous les mois par exemple, de son corps, eh bien on s'aperçoit de l'amaigrissement. Et là on dit, oui, là, j'ai vraiment maigri.
C'est meilleur, on a un peu de recul finalement.
On a du recul par rapport à l'image.
Qu'est-ce que vous répondez, Patrick Serog, à quelqu'un qui vient vous voir pour la première fois et qui vous dit, j'ai tout essayé, rien ne fonctionne sur moi?
Oui, alors, en général, rien ne fonctionne parce que on n'a jamais pu vraiment faire les choses bien. Vous savez, quand on se met à changer son alimentation, au début, on essaye de s'en approcher, et puis peu à peu, on s'en écarte, et puis voilà. Et en fait, je me suis aperçu que quand les gens ne mangeaient pas suffisamment, eh bien, ils ne pouvaient pas maigrir, voire ils grossissaient. C'est-à-dire que la difficulté aujourd'hui pour quelqu'un, pour maigrir, c'est de manger suffisamment. Quand il y a 40 ans, j'ai commencé la nutrition, c'était le contraire. C'est-à-dire que les gens mangeaient trop, il suffisait de leur diminuer leur alimentation et ils maigrissaient très bien. Depuis 40 ans, les gens se sont habitués à faire des régimes. Et donc, la personne qui vous dit « j'ai tout essayé, rien ne marche », c'est qu'en fait, elle a essayé beaucoup de choses, elle a repris du poids. Et aujourd'hui, comme elle dit, plus rien ne marche parce qu'elle ne fait pas les choses. Elle ne se rend même pas compte qu'elle ne suit pas vraiment les choses. Elle mange moins que son besoin. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, mais si vous me donnez tout ça à manger, je vais grossir. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me donnez. Alors que si elle applique cette méthode et qu'elle mange suffisamment, alors elle va libérer sa graisse et elle va pouvoir maigrir.
Donc effectivement, c'est pas en se restreignant, ça il faut comprendre, c'est pas en diminuant drastiquement les portions qu'on va mincir.
Exactement.
Peut-être qu'on va mincir au début.
On va mincir au début, bien sûr, mais on va reprendre du poids et surtout on va bloquer le poids, il va plus baisser ensuite. Mmh. Ça c'est un phénomène très important qu'on a compris récemment. C'est-à-dire que quand on mange trop, tout le monde comprend qu'on prend du poids. Quand on mange moins, là, les gens ne comprennent pas comment on peut grossir en mangeant moins. Parce qu'on mange moins par rapport à son besoin. Le corps, tous les jours, il travaille 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tous les 4 jours, on va renouveler nos cellules de l'estomac et de l'intestin. Pour fabriquer de nouvelles cellules, il nous faut du matériel. C'est comme quand vous construisez un building.
Ouais, ouais.
Vous avez besoin de ciment, de béton, vous avez besoin de portes, de fenêtres. Là, c'est la même chose. Et qu'est-ce qui apporte les éléments nécessaires ? C'est l'alimentation. Et quand vous l'avez, à ce moment-là, vous pouvez libérer le gras que vous stockez, parce qu'il n'en a plus besoin pour faire un travail complémentaire en allant chercher dans des organes non prioritaires ce qu'il a besoin pour les organes prioritaires.
Alors, vous parlez de votre expérience de 40 ans en tant que médecin nutritionniste. En quoi la démarche donc que vous proposez aujourd'hui, puisque c'est pas le premier régime que vous proposez, est-elle adaptée à l'évolution de la société dans laquelle on vit aujourd'hui?
Parce que dans la société, aujourd'hui, on se trouve devant une population qui a grossi depuis 40 ans. Donc, elle a fait des régimes depuis 40 ans. Et en faisant des régimes successifs, elle a introduit une résistance à l'amaigrissement parce qu'elle a appris à manger moins. En mangeant moins, elle n'a pas suffisamment pour pouvoir perdre son gras. Et donc, cette nouvelle méthode que je propose, c'est de manger suffisamment pour ces personnes-là. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vraiment tout à fait étonnant. Quand vraiment elles le font et qu'elles mangent suffisamment, elles maigrissent extrêmement bien et peuvent se stabiliser.
Alors, on m'a donné un chiffre. Peut-être que ceux qui nous écoutent vont être surpris. Il faut manger 2 kilos par jour.
Oui, c'est-à-dire 800 grammes à chaque repas principal et 400 grammes le matin, voilà. Alors 800 grammes, c'est...
Quand on pense à 2 kilos par jour, ça, on a l'air qu'on...
Oui, on se dit, mais comment c'est possible de manger 2 kilos par jour? Alors prenons un repas, voilà. Quand vous prenez un repas, si vous prenez une entrée, vous en avez pour 150 à 180 grammes. Quand vous prenez un plat principal, vous avez, admettons, un poisson ou une viande qui va faire 150 ou 160 grammes, et vous avez un accompagnement avec soit féculents, soit légumes, ça va être environ aussi 200 grammes. Et puis ensuite, vous avez un laitage. Prenons un yaourt, c'est 125 grammes. Prenons un fruit, c'est 200 grammes. Vous êtes aux 800 grammes.
Par repas.
Donc, et c'est ça dont on a besoin, puisqu'il y a des nutriments différents dans tous les aliments, et nous avons besoin de ces différents nutriments pour nous reconstruire.
Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde a besoin de la même quantité?
À peu près. Alors,
c'est ça qui est paradoxal. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui fait 1m90, il a besoin de la même quantité que quelqu'un qui fait
1m50. Ça dépend d'où est son poids de départ. Hein. Si c'était quelqu'un, par exemple, qui était assez lourd et qui mangeait beaucoup, il faudra un peu plus. Parce qu'il ne faut pas que la différence entre ce qu'il fait spontanément et ce qu'on lui propose soit trop grande. Parce que si elle est trop grande, ça va introduire à ce moment-là une peur du corps. Et il va freiner l'amaigrissement. Parce qu'il dit, j'ai pas assez, c'est pas possible, je mangeais beaucoup plus, qu'est-ce que c'est que ça? Je freine. Donc, il faut l'adapter, bien sûr. Mmh. Là, je vous parle évidemment d'une personne qui est d'un poids moyen et d'une taille moyenne.
Voilà, donc, encore une fois, comme c'est le régime à la carte.
Et il faut l'adapter à chaque individu, bien sûr.
Vous dites que finalement, quand on démarre une démarche de perte de poids, il ne faut pas la démarrer tout seul. Il vaut mieux être encadré.
Oui, il faut être encadré. Alors pourquoi? Et c'est souvent ce que les patients d'ailleurs me disent. Ils me disent, je sais très bien tout ce qu'il vous faut faire, docteur, je sais. Mais je viens vous voir parce que j'y arrive pas seul. Voilà. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de méthodes, comme Weight Watchers ou d'autres méthodes qui essayent d'encadrer les gens, justement, de les accompagner. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement parce que on peut pas rester seul devant son alimentation. Il faut être guidé, il faut être soutenu, il faut être encouragé, parce que c'est difficile, finalement, à changer son mode alimentaire. Et vous avez besoin de repères. Alors, la balance est un repère, mais la balance que l'on a à la maison est un mauvais repère.
Ah.
Pourquoi? Parce que...
Pourquoi celle qui est à la maison?
Ben parce que celle qui est à la maison est une balance, habituellement, qui ne montre que le poids. Quand elle est un peu plus sophistiquée, qu'elle va montrer la masse grasse et l'eau et tout ça, elle est souvent fausse, parce qu'il faut des méthodes, il faut des appareils assez chers pour avoir une méthode précise. Alors, en fait, le poids que l'on a, c'est un poids total. C'est-à-dire, on a de l'eau, 65% du corps, donc c'est énorme, donc d'un jour à l'autre, vous pouvez prendre 2 kilos. Si vous ne savez pas que c'est de l'eau, vous affolez complètement.
Ce que vous dites, c'est que le gras, ça met du temps pour arriver. Donc, si vous retrouvez du jour au lendemain avec 2 kilos en plus, c'est pas du gras.
Ah oui, c'est pas du gras, hein. Ça c'est de l'eau. Hein. Du jour au lendemain, c'est de l'eau. Bon, et de l'eau, ça va, ça vient, c'est tout à fait normal qu'il y ait une adaptation. Pour perdre du gras, eh bien ça va progressivement. Personne ne peut prendre du gras, peut prendre 500 grammes de graisse en une soirée, c'est impossible. Hein. Mais par contre, on va perdre du gras progressivement, et je vous dis, la moyenne, c'est vraiment entre 800 grammes et 1,2 kg de graisse par mois, ce qui est énorme, hein. Énorme.
Bien, on en reparlera de la graisse tout à l'heure, cette vilaine graisse. On verra qu'il y a plusieurs graisses. Patrick Serogue est l'invité d'À votre santé jusqu'à 13h. Créez vous-même votre régime aux éditions Flammarion.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est régime à la carte ce matin avec Patrick Serogue qui publie Créez vous-même votre régime aux éditions Flammarion, coécrit avec la collaboration de Marie Borel. Alors on va parler de la graisse tout à l'heure. Il existe deux types de graisse. Si on se découpait, il y a la graisse blanche et la graisse brune.
C'est vrai.
Ouais. Pourquoi est-ce que la graisse s'accumule dans la partie abdominale chez l'homme, c'est plutôt le ventre, et sur les cuisses et les fesses sur la femme, chez la femme?
Alors c'est une question hormonale, c'est-à-dire que la graisse abdominale va dépendre beaucoup de la testostérone, donc de l'hormone mâle, et elle va s'accumuler en haut et chez la femme, parce que les hormones femelles vont plus augmenter la graisse au niveau des cuisses et du bassin, et ce qui également favorise la fertilité. Quand la femme a sa ménopause, qu'elle arrête de sécréter des hormones femelles, à ce moment-là, elle va avoir une migration de la graisse qui va passer du bas du corps vers le haut du corps, et elle va avoir un dépôt de graisse abdominale exactement comme l'homme. Mmh. On sait que ce dépôt de graisse au niveau abdominal est plus dangereux pour la santé, surtout au niveau cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Et c'est vrai que à ce moment-là, on a intérêt à limiter cette quantité de graisse abdominale, surtout à partir de 50 ans, parce que cela augmente ce risque vasculaire.
Même si à poids égal, tout le monde n'a pas les mêmes risques finalement.
Oui, tout le monde évidemment n'a pas les mêmes risques. Même des gens qui sont minces, mais qui vont avoir un dépôt abdominal un peu plus important au niveau de la ceinture abdominale, ont un risque aggravé de maladies vasculaires.
Alors, on a appris récemment que la graisse n'était pas qu'un garde-manger, comme on nous l'avait dit pendant des années, finalement, que le corps stockait en cas de famine, en cas de disette.
Alors, le tissu adipeux, c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a deux types de tissu adipeux. La grande masse, c'est la graisse blanche, finalement, qui va stocker. Et il y a un petit peu de graisse brune. Et cette graisse brune, c'est l'espoir de demain, puisque cette graisse brune dépense beaucoup d'énergie. Hein. Elle participe à ce qu'on appelle à la thermorégulation, c'est-à-dire à la chaleur du corps que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Et si on arrivait à la développer, on pourrait à ce moment-là augmenter la dépense énergétique et faire maigrir les gens sans qu'ils aient besoin de faire de régime. Mais ça, c'est pour l'avenir. Mmh. Aujourd'hui, il faut dire que la graisse, c'est un tissu non seulement de stockage, mais c'est un tissu également endocrinien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça permet de sécréter des hormones. Mmh. Et lorsque cette graisse se transforme, elle peut devenir très dangereuse, parce qu'elle va sécréter un grand nombre de substances qui peuvent devenir toxiques pour l'organisme. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop l'accumuler en grande quantité.
Mmh. Et est-ce qu'on peut perdre, imaginons, la graisse de l'endroit où on veut ?
Non, on ne peut pas perdre
je voudrais maigrir du ventre, là. Est-ce que je pourrais finalement trouver le truc magique qui me fasse disparaître ma graisse du ventre ?
Par la diététique, c'est impossible. Uniquement la chirurgie esthétique permet de faire ces modifications-là, mais pour des masses grasses qui sont localisées, par exemple, lorsqu'on a une culotte de cheval, eh bien là, on aspire cette graisse et on l'enlève de manière locale. La diététique ne pourra rien sur cette graisse-là. Ça, c'est sûr, puisque quand on va maigrir d'abord au niveau abdominal et finalement après au niveau des cuisses, mais on ne peut pas décider exactement la forme que cela va prendre. C'est la nature de chaque individu qui va le déterminer.
Alors, il existe également un lien entre l'équilibre des bactéries intestinales et la prise de poids. Alors, ces fameux microbiotes, donc, qui est devenu la star depuis quelques années, un petit peu de tous les magazines qui parlent de nutrition.
Oui,
c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que si notre microbiote n'est pas en bon état, on...
C'est pas en bon état. C'est en fait, dans le microbiote, il y a entre 500 et 700 familles de bactéries. Et il y a certaines familles qui favorisent la prise de poids. Et on s'aperçoit, par exemple, que chez les personnes qui sont trop fortes, eh bien, il y a certaines bactéries qui sont en excès par rapport à ceux qui sont minces. Et on a même pu faire des expériences chez la souris en transplantant de microbiotes de souris obèses à des souris minces qui se mettent à devenir obèses et également le contraire. Donc vous me direz, c'est très facile, on n'aurait qu'à prendre le microbiote de personnes minces et on le transporte chez les personnes obèses.
Il y a eu des expériences hein, comme ça.
Mais le problème, c'est que
aujourd'hui, aux États-Unis et au Canada, ils font des trucs pas terribles.
Ils font des trucs pas terribles et aujourd'hui, ça ne tient pas. Pendant un moment, ça marche et puis après, le microbiote naturel de la personne revient et se réinstalle.
Parce qu'ils font des expériences de stimulation de microbiote.
Oui.
Pourquoi, alors, est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi, à un moment donné, l'organisme va se mettre à stocker de la graisse ? Quelle explication on a derrière ça ?
Alors, on a une explication, d'une part, génétique. On sait que certaines personnes ont des gènes qui sont plus sensibles à l'environnement, au stress. Et qu'à ce moment-là, ceux-là vont prendre beaucoup de poids. On peut même les dépister extrêmement jeunes. C'est pour ça qu'on estime que le dépistage dans l'enfance des surpoids de l'enfance est très important, parce qu'on peut beaucoup plus facilement modifier le profil alimentaire de ces enfants que quand ils sont adultes et avoir de bien meilleurs résultats. Donc il y a d'une part la génétique et puis il y a d'autre part des chocs affectifs surtout, qui vont déclencher, pour une raison qui ne sont complètement inconnues, une multiplication de cellules adipeuses. Donc la cellule adipeuse, d'une part, elle peut se remplir, devenir très grosse, mais elle peut aussi se multiplier. Mmh. Normalement, il y a des âges à laquelle ça va se multiplier quand on est jeune, quand on a environ 20 ans, puis après c'est terminé. Eh bien, sous l'effet d'un choc, il peut y avoir une multiplication de ces cellules qui ne cherchent qu'une chose, c'est se remplir.
Mais est-ce que c'est inéluctable finalement, le fait que quand on va en âge, on grossit forcément ?
Oui, c'est inéluctable pour une raison très simple, c'est que la masse musculaire diminue. Et la masse musculaire, c'est ce qui nous permet de dépenser de l'énergie. Donc en diminuant sa dépense énergétique, même si on mange exactement la même chose, inexorablement, on va prendre un petit peu de poids.
Mmh. Donc pour en venir à la graisse, quand on veut perdre du poids, la localisation de la graisse, en quoi est-ce que c'est important de savoir où elle est pour perdre du poids ? C'est important ou pas ?
Non, c'est pas important de savoir où elle est. Quand on a, par exemple, une masse grasse qui est répartie dans tout le corps, bah, on va perdre dans tout le corps. Je veux dire, ça va rien changer au problème dans la réduction même de la quantité de graisse.
Quel est le bon moment, donc, pour entreprendre une démarche de perte de poids ?
Ça, c'est une question très importante. Il y a des bons et des mauvais moments. Le bon moment, c'est lorsqu'on n'a pas trop de soucis, lorsqu'on a vraiment décidé de faire quelque chose et qu'on a décidé de se faire accompagner. Il faut surtout ne pas commencer à vouloir maigrir quand on a beaucoup de soucis au travail, quand on est très stressé, quand on n'arrive pas à s'en sortir avec sa famille. Dans ces conditions-là sont extrêmement défavorables. Parce que
parfois on se dit, oui, si je maigris, tous mes problèmes vont partir avec.
Voilà, ça c'est prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord diminuer son stress et que son environnement soit plus favorable pour réussir son amaigrissement.
Est-ce que les vacances, on va dire, les vacances d'été, est-ce que c'est propice à entreprendre une démarche de perte de poids ?
Alors, en général, c'est propice parce qu'il fait beau, on a moins envie de manger, donc c'est plus facile. On va utiliser des aliments qui sont souvent moins caloriques, comme les légumes ou les crudités. Le seul problème, c'est le vin, souvent, qui est un moment où on va boire plus de vin, et que c'est vrai qu'il faut...
Pour ceux qui font l'apéro, oui.
Oui, mais en général, beaucoup de gens, dès qu'ils partent en vacances, ils font l'apéro avec leurs amis ou leur famille, et même à table, ils vont boire plus que d'habitude chez eux. Mais on peut quand même arriver à limiter, mais c'est un bon moment pour commencer à faire attention. Et puis quand on rentre, c'est ça la difficulté. Là, il faut se faire accompagner parce que c'est très compliqué, finalement.
De garder les bonnes habitudes.
Ensuite,
quel est le poids ? Alors, vous employez le mot juste. Comment est-ce qu'on détermine son propre poids juste ?
Alors, il y a deux manières de le déterminer. La première, quand on fait ce qu'on appelle une impédance-métrie.
Alors là, je vais vous dire, je ne vais pas vous faire une conférence dessus.
Une impédance-métrie de qualité, c'est-à-dire lorsqu'on va mesurer, grâce à un appareil assez sophistiqué, la quantité de graisse, de l'eau et de la masse musculaire. Là, avec la masse grasse, on peut savoir quel est d'abord le bon niveau de la masse musculaire. Si vous avez, par exemple, 10 kilos de plus que la moyenne que vous devriez avoir, vous avez déjà un ordre de grandeur. Ça, c'est technique. Ensuite, le bon poids, ça vient aussi par rapport au repère du corps. On en a parlé tout à l'heure, à quel poids, finalement...
J'étais heureux.
Et surtout, à quel poids j'ai pu me stabiliser longtemps. Pour la femme, il y a une petite différence à suite des grossesses. Parce que les grossesses peuvent entraîner une prise de poids qui peut être très importante ou légère. Et en tout cas, très souvent, les femmes ne peuvent pas retrouver le poids qu'elles avaient avant la première grossesse. Et il faut accepter, dans ce cas-là, qu'il y ait un différentiel qui est de l'ordre de 2 à 3 kilos entre ce qu'on avait avant et ce qu'on va obtenir après.
Donc ça sert à rien de courir derrière sa silhouette d'avant. Ça serait un objectif déraisonnable.
C'est un objectif déraisonnable parce qu'à un âge donné, on a une silhouette donnée, un poids donné, qu'on ne pourra pas récupérer complètement 10 ans ou 20 ans plus tard.
Mais parler de poids juste ou d'objectif raisonnable, qu'est-ce que ça serait finalement un objectif raisonnable dans une perte de poids ?
Un objectif raisonnable, c'est d'accepter de ne pas trop maigrir, de ne pas courir après ses fantasmes ou bien un poids qu'on a connu dans sa jeunesse. Car non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'obtenir. On pourra l'obtenir, mais on ne pourra pas stabiliser. Or, si on fait un régime, entre guillemets, c'est bien pour pouvoir stabiliser un nouveau poids et arrêter de faire du yo-yo toute sa vie et de devenir de plus en plus gros. Donc le poids juste, c'est un poids repère auquel on va pouvoir se stabiliser pendant plusieurs années.
Alors que les gens, vous savez, ils sont tout à fait motivés pour entreprendre des changements radicaux, perdre 25 kilos. Quand on leur dit il faut perdre 5 kilos, en général, ça les motive beaucoup moins.
Ça les décourage en disant...
Il y a un côté où ils disent, à quoi bon perdre 5 kilos ?
Déjà, perdons 5 kilos, voir comment ça se passe. Et si après, tout va bien, on se sent bien, on pourra continuer à reperdre 5 kilos. Allons par étapes, faisons de petites étapes, de petits pas pour arriver à son objectif.
Et quelle est la perte de poids, on va dire, que vous conseillez par période ?
Non, c'est vraiment individuel. Ça dépend de chacun. Ce n'est pas du tout comme la chirurgie bariatrique. Quand vous opérez quelqu'un, parce qu'il est trop gros et que vous lui coupez une partie d'estomac, vous savez exactement combien de kilos il va perdre. On sait que la moyenne, c'est entre 25 et 30 kilos, d'accord, au bout d'un an. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas regrossir après. Mais en tout cas, on sait...
On vous vend d'abord du rêve.
Non, on vous vend une réalité. La réalité, on la connaît.
On oublie de vous dire que vous pouvez grossir.
On oublie de vous dire qu'il est possible que si vous ne changez pas vos habitudes alimentaires, vous pouvez regrossir dans quelques années. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on n'utilise pas ces moyens extrêmes et qu'on utilise uniquement l'alimentation, eh bien, on ne peut pas dire exactement à quel poids on va se stabiliser. On a une fourchette en fonction de l'histoire de du patient et après, on tourne autour de cette fourchette pour stabiliser. Mais on n'a pas souvent des exploits aussi importants que peuvent apporter la chirurgie bariatrique.
Créez vous-même votre régime jusqu'à 13h sur Beurre FM avec Patrick Seroquet, notre invité. Le livre est publié aux éditions Flammarion.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'invité de votre santé aujourd'hui, c'est Patrick Seroquet. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et que vous publiez « Créez vous-même votre régime » aux éditions Flammarion. Pourquoi, si on crée nous-mêmes notre régime, on aurait besoin de vous, Patrick Seroquet? Là, vous êtes en train de vous savonner la planche.
Exactement. Mais il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller consulter un médecin ou bien de voir une diététicienne ou d'aller dans quelques groupes que ce soit et qui ont envie de se débrouiller tout seul. Et c'est de vivre pour eux.
Bien. Certains vont être frustrés parce que vous dites pas il faut manger 33 grammes de ça, 44 grammes de ça, 55 grammes de ça.
Oui, c'est vrai. Ça, c'était une technique qui avait été utilisée pendant d'ailleurs plusieurs années. Mais on s'est aperçu que plus vous allez détailler l'alimentation en grammes et tout ça, plus vous devenez obsessionnel. Et ça, c'est terrible parce qu'au bout d'un moment, l'obsessionnalité amène à l'abandon complètement de ce que l'on fait.
Ah, pourtant, au début, en phase de contrôle, les gens sont très obsessionnels sur ce qu'ils mangent.
Oui, oui, absolument. Il y a ce besoin pour pouvoir justement lutter contre la résistance qu'il y a en nous d'avoir des règles très précises et d'être privé de liberté, finalement.
Alors, vous proposez un cadre alimentaire,
Oui.
En gros.
Oui.
Donc, en quoi consiste la méthode?
La méthode, elle consiste d'abord à écrire, par exemple, sur un petit carnet, ce que l'on mange pendant quelques jours pour voir ce que l'on mange. Très souvent, on est vraiment étonné de ce que l'on mange.
Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de manger très peu.
Oui.
Dire, je comprends pas, je mange jamais rien. Je comprends pas pourquoi je grossis.
Exactement. Par exemple, vous avez des grignoteurs, ils mangent très peu au repas, et puis ils passent dans la cuisine, hop, ils vont prendre un petit morceau de pain, un petit morceau de fromage, hop, ils repartent, ils reviennent. Ils se rendent pas compte qu'au bout de la journée, finalement, ils ont mangé beaucoup de calories. Et puis, il y en a d'autres qui ne mangent pas assez, comme on l'a déjà dit, ils se mettent à table, ils vont prendre juste un plat et puis c'est tout. Voilà. Donc, pour tous ces gens-là, c'est vrai que d'écrire pendant juste 8 jours, ça suffit. Ce que l'on mange après chaque repas ou ce que l'on grignote, eh bien, ça permet déjà d'avoir un premier profil. Ensuite, la deuxième partie, c'est de se dire, on va faire de vrais repas. On va essayer de diminuer le grignotage. Si j'ai faim en dehors des repas, je peux tout à fait manger quelque chose. Mais je me pose la question, est-ce que j'ai faim? Et ça, on sait y répondre. Si on a faim, on sent le besoin dans le ventre.
Oui, mais on ne mange pas toujours parce qu'on a faim.
Si on a besoin dans la tête...
Ça serait trop simple.
À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas faim et qu'on peut là, on a besoin de plaisir. Mais ça, c'est un autre sujet. On peut se dire que l'alimentation, voilà, peut nous donner à certains moments du plaisir pour ce que c'est uniquement et pas parce qu'on a faim. Et on va se prendre un morceau de chocolat. Et je dis toujours à mes patients, vous pouvez prendre 30 grammes de chocolat par jour. Donc... se prendre un tiers de tablette, ce qui est quand même pas mal, c'est bien. Bon, et puis pour les autres, c'est surtout d'arriver à manger suffisamment dans leur repas pour pouvoir justement diminuer leur faim.
Bon, donc faire des repas et se concentrer sur des repas principaux.
Oui.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on mange dans ces repas?
Alors, on commence par une entrée. Pourquoi? Parce que ça dilate l'estomac et ça permet aussi d'apporter par les crudités ou des soupes froides des vitamines qu'on n'aura pas forcément lorsque les aliments seront cuits. Ensuite, on va avoir un plat principal avec toujours une source de protéines, donc un poisson, une viande ou des œufs, accompagné de légumes et de féculents. Les féculents, on les prendra une seule fois par jour et on en prendra une quantité moyenne de 150 grammes, par exemple, en pois cuit pour la femme et 200 grammes pour l'homme en pois cuit aussi. Et puis ensuite, on va avoir un laitage, ça peut être un yaourt, mais aussi on peut de temps en temps prendre du fromage. Et puis on aura un fruit ou une compote ou une salade de fruits, voilà. Ça, c'est la structure régulière de l'alimentation qui apporte les 800 grammes, qui permet aussi de ne pas avoir faim. Et puis, il va y avoir, au travers de ça, des douceurs. Vous avez une vie sociale, vous allez chez des amis, vous recevez à la maison, il faut vivre. Et donc, quand vous allez chez des amis, bah, vous allez par exemple... Vous allez boire évidemment un apéritif, mais vous éviterez les amuse-gueules extrêmement salés et sucrés. Mais après, vous mangez ce qu'on vous propose. S'il y a du foie gras en entrée, vous en prenez une part. La viande ou le poisson, vous en prendrez. Le gâteau aussi, vous prendrez s'il y en a. Et puis le lendemain, vous recommencerez simplement, sans compenser, comme souvent les patients veulent faire, en se restreignant à ce moment-là, en disant oh « là, j'ai plus mangé à ce repas-là », vous reprendrez
donc, diète, oui.
Ouais, votre alimentation que vous avez définie. Mmh. Et c'est ce qui permettra de diminuer l'effet de ces dépassements alimentaires qui auront lieu.
Mmh. Voilà. Donc, la base de votre méthode, de votre stratégie, c'est des repas réguliers,
oui.
Donc deux par jour.
Oui.
On n'a pas parlé encore du petit déjeuner,
pas
du goûter.
On va en parler.
Alors,
le petit déjeuner, chez l'adulte, ça dépend si vous avez faim. Il y a des adultes qui ont besoin de petit déjeuner, meurent de faim le matin, donc il en faut un. Il y en a d'autres qui n'ont pas envie de petit déjeuner.
Qui vous disent, j'ai jamais faim le matin.
J'ai jamais faim le matin. Eh bien, il faut respecter. Il n'y a jamais faim le matin. Et ce sont souvent des gens qui peuvent attendre le déjeuner sans aucun problème, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'aller grignoter. Eh bien, il n'y a pas de petit déjeuner. Ils n'auront que deux repas par jour. Et ils marcheront très bien comme ça.
Mmh. Le goûter ?
Alors, le goûter, c'est quand on a faim. Donc, il faut ressentir la faim. Si on ressent la faim, on peut se prendre un fruit, on peut se prendre un yaourt, on peut se prendre un yaourt plus un fruit, on peut se prendre du chocolat si on a envie avec un morceau de pain, si on a envie de se faire plaisir. Donc, le goûter, c'est possible, mais à la condition de ressentir vraiment le besoin.
Le principal organe de l'appétit, dites-vous, c'est le cerveau. Et parfois, on mange alors qu'on n'a pas faim. Alors, est-ce
oui.
que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a envie de manger alors qu'on n'a pas faim et comment, justement, on combat ça?
Parce que dans la vie, dans notre vie, le seul plaisir immédiat que l'on peut avoir, c'est par la nourriture. Il y a deux grands plaisirs pour l'être humain, c'est celui de manger et celui de faire l'amour. Et faire l'amour, ça demande des conditions particulières. Manger, aujourd'hui, c'est devenu d'une extrême facilité, alors que ça n'en était pas du tout avant. Vous sortez dans la rue, vous pouvez manger n'importe quoi, il y a tout est ouvert, jour et nuit. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que notre vie a beaucoup changé à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'offre alimentaire est devenue tellement permanente que, effectivement, on peut manger. Et c'est pour ça que, pour se faire plaisir, on va aller prendre une petite douceur qui va nous donner un plaisir immédiat.
Alors on n'a donc pas besoin de manger, mais on a envie de manger.
Voilà.
D'accord. Comment est-ce qu'on combat cette envie de manger ?
En se demandant pourquoi on a envie de manger. Parce qu'on a peut-être envie de manger, parce qu'on a on s'est disputé avec quelqu'un dans son travail. Parce qu'on a reçu un coup de fil de la personne qu'on aime et qui vous a renvoyé sur vos plots. Donc, pour plein de raisons qui ne sont pas de l'ordre alimentaire, on a effectivement... Donc, il faut chercher la raison. Et quand on trouve... Pourquoi on a ce réflexe, si on se pose simplement la question, eh bien, on peut à ce moment-là y pallier. C'est lorsqu'on ne peut pas répondre à la question que l'on va aller chercher un élément qui va nous calmer.
Mmh. Et comment est-ce qu'on combat la frustration, alors ?
On
passe devant une plaque de crunch
La frustration se combat en s'obligeant à manger des douceurs tous les jours. C'est-à-dire, j'adore le chocolat... Et je ne veux pas en manger parce que je sais que je ne peux pas m'arrêter. Il faut en manger tous les jours. En mangeant tous les jours, même les jours où on n'a pas envie, on diminue énormément la compulsion que l'on a à cet aliment-là.
Qu'est-ce que vous conseillez par rapport au pain ?
Le pain, c'est un très bon aliment. Mais il faut le considérer comme un féculent. Puisque c'est de l'amidon, comme la pomme de terre, les pâtes, le riz, tout ça. Donc, le pain, on peut en manger, bien sûr, mais il faut l'inclure dans cette ration de féculents. C'est-à-dire que si,
donc,
par exemple...
Si on est un homme, donc on part sur une base de 200 grammes donc de 200 féculents grammes, par repas,
et on pourra ajouter,
une fois par jour.
Et on pourra ajouter du pain, on pourra ajouter, par exemple, dans la journée, une demi-baguette.
Quels sont les produits interdits chez vous? Enfin, les aliments interdits.
Non, il n'y a pas de produits interdits. Il n'y a que des produits... Il y a certains produits qu'il ne faut pas manger avec une grande fréquence. Tout ce qui sont des aliments très gras sont très ennuyeux par rapport au stockage des graisses. Le sucre, en général, jusqu'à une certaine quantité, on est capable de le brûler. Parce qu'on ne sait pas le stocker, le sucre. Donc... on est capable de le brûler facilement, et surtout le sucre, on en a besoin pour notre cerveau, pour notre concentration et pour notre énergie tous les jours. Si on en mange trop, à ce moment-là, on le transformera en graisse. Mais le gras, par contre, lui, est un vrai problème. Parce qu'on va commencer par brûler le sucre, et ensuite, on n'aura plus beaucoup de capacité pour brûler la graisse. Donc, je dis toujours aux gens, essayons d'être raisonnables. Par exemple, j'adore l'avocat. Mais je ne vais pas manger les avocats tous les jours. Parce que l'avocat, c'est un aliment très gras. Mais j'adore l'avocat. Donc, d'accord.
Mais est-ce que c'est du bon gras? Parce que...
Oui, c'est du bon gras. Comme les, vous savez, la folie aujourd'hui
on
des
amandes. On dit,
l'avocat,
amandes, c'est un très bon gras.
C'est un très bon gras. Mais quand vous avez un objectif de maigrir, ça devient un gras inutile. Même s'il est très bon pour la santé. C'est trop par rapport à son objectif qu'on a. Si on est mince... Et que, où on a eu un problème cardiovasculaire, j'ai dit, bien sûr, prenez de l'avocat, prenez des amandes, prenez des noix tous les jours un peu, bien sûr. Mais quand vous avez un problème de poids, c'est une question de stratégie. Vous n'allez pas augmenter votre quantité de graisse. Donc, par exemple, la folie aujourd'hui des amandes, des noix, des oléagineux, bon, bah, ça, il faut évidemment beaucoup la réduire parce que c'est extrêmement gras.
Les produits light, Patrick Serog.
Les produits light n'ont pas beaucoup d'intérêt en eux-mêmes. Ils peuvent être intéressants dans le cadre d'une stratégie alimentaire. Par exemple, cherchez à diminuer le gras, comme on vient de le dire. Si vous prenez un yaourt qui est gras, vous pouvez avoir aujourd'hui des produits laitiers qui vont de 10% de matière grasse à 0% de matière grasse. Vous avez intérêt à favoriser ceux qui sont le moins gras, puisqu'on va se permettre de prendre d'autres aliments qu'on préfère vraiment et qui seront un peu plus gras. Alors on va se dire, là on peut utiliser par exemple des yaourts à 0%. Mais si vous n'aimez pas le yaourt à 0%, vous dites c'est vraiment dégueulasse ce produit-là. Mais surtout n'en prenez pas. Prenez un yaourt au lait entier, qui sera à 3,6 grammes de matière grasse et qui ira très bien et qui vous satisfera et qui vous donnera du plaisir. Donc il y a toujours en fait un jeu entre la stratégie sur l'amaigrissement que l'on a défini et également le plaisir dont on a besoin tous les jours.
Votre régime personnalisé, donc, on le tient combien de temps? Est-ce que ça veut dire que c'est une alimentation qu'il faut garder
en
permanence?
Oui, ce n'est pas un régime. On a appelé ça le mot régime, malheureusement.
Dans votre livre, vous ne l'utilisez pas. Mais sur le titre, c'est...
Parce que le titre n'appartient pas à l'auteur, le titre appartient à l'éditeur. Et l'éditeur, lui, il cherche à vendre. Et donc, le mot régime, il sait que ça va attirer des chalands. Mais effectivement, c'est un mauvais terme, le mot régime, tout simplement parce que, en français, le mot régime implique obligatoirement la restriction. Tandis qu'en anglais, non. Vous avez diet, mais vous avez, pour dire régime, on dit restrictive diet. Donc c'est pas la même chose.
On peut dire régime alimentaire qui peut être une façon de s'alimenter, vous voyez.
Exactement.
Dans ce cas-là.
Exactement. Mais les gens tiltent tout de suite sur le mot régime. Non, la restriction, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour l'être humain, parce que tout simplement, il n'a qu'une hâte, c'est d'essayer d'enfreindre la restriction.
Créez vous-même votre régime alimentaire. C'est le titre du livre de Patrick Serog qui sort aux éditions. Pardon, Flammarion, merci d'avoir été avec nous, Patrick Serog.
Merci beaucoup.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.